Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Bienvenue dans ce nouveau numéro de d'histoire et de contes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et surtout le privilège d'accueillir une jeune auteure qui nous vient de Valence, il me semble, donc Marina Chenet. Bonjour Marina.
Bonjour.
Donc tu vas nous offrir quelques-uns de tes textes, quelques-uns de tes contes même.
Oui.
Oui. Comment te sens-tu à l'idée de nous les offrir ?
Eh ben, je suis très très contente, mais j'ai un petit peu peur.
Tu sais, on va y aller tranquillement, et puis quand tu le sens, tu peux commencer.
Donc je vais commencer par L'abeille et l'éléphant, qui a été un de mes premiers contes. Dans une lointaine contrée où les éléphants vivaient avec les hommes, le Maharaja, chef impitoyable des hindous, nommé Lalassi, gouvernait d'une main de fer le pays qui autrefois était connu pour la sagesse de son peuple. Depuis qu'il en était le souverain, la pauvreté et le malheur se répandaient sur ses terres, gardant pour lui tous les trésors et les récoltes. Un jour, un vieil homme demanda audience et fut reçu dans le palais royal. Il ne put s'empêcher d'éprouver du dégoût face à toute la richesse présente en ce lieu. Une seule de ces lampes d'or et de rubis aurait suffi à nourrir tout un village. Il avança vers le trône, entièrement fait d'ivoire et de diamants, en passant au milieu de courtisans vêtus des soies les plus fines. Lorsque le Maharaja lui demanda l'objet de sa visite, le vieil homme lui demanda de partager sa fortune avec son peuple, car il se mourait et que bientôt, son pays ne serait plus que poussière et misère. Le Maharaja se rit de lui et appela ses gardes pour faire sortir cet insensé et l'exécuter sur la place afin de servir d'exemple. Il fut emmené au milieu de la ville et devant tous les habitants fut mis à genoux. Les enfants terrifiés se cachèrent dans les bras de leur mère et les hommes serrèrent les poings de fureur. Ce vieil homme était leur doyen, leur sage, leur père à tous. Au moment où les gardes levèrent leurs sabres, le vieil homme annonça à haute voix une prophétie que nul ne put nier avoir entendue. Un éléphant blanc, symbole de sagesse et de bravoure, viendra au monde. Il sauvera le peuple et mettra un terme au règne du Maharaja. Alerté par la nouvelle, Lalassi déploya tous ses gardes à travers le pays afin de trouver et d'éliminer tous les éléphants blancs. Jamais ils n'en trouvèrent. Si dans une petite ferme qu'elle naquit, une jeune éléphante, blanche comme la neige, que son maître s'empressa de cacher et de protéger à sa naissance. Il lui donna le nom de Assa. Elle grandit plusieurs années dans l'amour entre ses parents et ses maîtres. Tous les matins, il la couvrait de suie et de boue afin de cacher sa couleur. À son 5e anniversaire, alors que son maître la brossait, elle lui répondit « Merci ». L'homme sursauta et comprit à ce jour qu'elle était douée de parole et donc qu'elle était celle annoncée par la prophétie. Il se promit de la protéger envers et contre tous. Un jour, les gardes furent annoncés par les villageois qui accouraient affolés pour les prévenir. Ils s'apprêtaient à saisir tous les éléphants afin de les mettre en esclavage. Il demanda à Assa de s'enfuir et de vivre sa propre vie. Assa partit donc, laissant derrière elle ses parents et ses maîtres qui se chargeaient de les retenir. Elle dut quitter l'Inde afin d'échapper aux gardes qui sillonnaient tout le pays et partit à la découverte du monde. Ainsi, au fil de ses rencontres et de ses aventures, elle acquit la sagesse, le partage, l'ouverture d'esprit, la générosité et l'entraide. Assa était devenue une éléphante pleine d'esprit et de courage. Plus grande que la plupart de son espèce et douée de parole, elle devint très connue et commença à demander de l'aide aux autres pays pour l'aider à libérer son peuple. Elle partit en quête d'aide parmi tout ce qu'elle avait rencontré et qui lui avait donné des leçons de vie sur les valeurs et l'entraide. Mais tous eurent une bonne raison de refuser. Trop loin, trop dangereux, ils devaient veiller sur les leurs. Après de nombreux voyages, Assa, épuisée, se posa près d'un lac pour s'abreuver. Flottant en plein milieu, une ruche autour de laquelle des milliers d'abeilles volaient complètement paniquées. Sans perdre de temps de réfléchir, Assa plongea et sortit la ruche pour la reposer sur la branche d'un arbre. La reine des abeilles la remercia chaleureusement et lui demanda ce qu'elle pouvait faire en échange. Tristement, l'éléphante lui avoua son besoin d'aide pour libérer son pays, mais ne voyait pas comment de si petites créatures pouvaient l'aider. La reine eut un sourire et lui offrit sa réserve de miel dans une fiole magique. « Le jour où tu seras en danger, brise cette fiole sur celui qui te voudra du mal. Tu verras que ce n'est pas la taille ni la force d'un individu qui fait son pouvoir, mais la famille, les amis et la solidarité. C'est en sachant qu'on peut compter les uns sur les autres que l'on est le plus fort. » Se sentant soutenue, même par ses tout petits insectes, elle reprit la direction de son pays natal, la fiole pendue à son cou. Elle se rendit d'abord à la ferme où elle avait grandi. Il n'y avait plus que des ruines et des champs brûlés par le soleil. Elle avança jusqu'au village. Il était abandonné. Sentant la colère l'envahir, elle se déplaça de ville en pleine fureur. Sa couleur éclatante et sa taille gigantesque lui valaient 1000 respects. Tous les hommes se prosternèrent à son passage et libérèrent ses congénères. Si bien qu'au bout de quelques jours seulement, ce fut toute une armée d'éléphants qui arrivèrent au palais, furieux et soutenus par la foule. Lalassi, qui avait été averti de leur venue, les accueillit avec des centaines de mercenaires armés de fusils et de canons. La foule et les éléphants effrayés furent freinés net dans leur élan. Heureux de sa victoire, le Maharaja leva le bras, prêt à faire feu sur la foule. D'un coup sec, Assa arracha la fiole de son cou et l'envoya sur le roi qui fut recouvert de miel. Le Maharaja eut un moment d'incompréhension, puis de peur, car subtilement, approché comme un grondement de tonnerre qui s'amplifiait de seconde en seconde. Le ciel s'assombrit, et il fallut un petit moment à tous pour se rendre compte que les nuages étaient en vérité des milliers d'essaims d'abeilles réunis. Le nuage prit la forme d'un éléphant gigantesque qui se précipita sur le roi et son armée qui se mit à hurler de terreur. C'est ainsi que la prophétie fut réalisée, et que pour la première fois de l'histoire du monde, un éléphant prit la place d'un Maharaja. L'Inde prospéra et devint le pays de la sagesse, de l'entraide et de la famille. Jamais un pays ne fut si beau, si majestueux que celui-ci à cette époque.
Bravo. Comment tu l'écris? Comment ça te vient ça?
Eh bien, en fait, je l'ai écrit pour une amie. J'avais envie d'écrire un conte pour elle et je lui ai demandé « Si tu voulais être un animal, qu'est-ce que tu voudrais être ? Et si un ami devait te protéger, tu voudrais que ce soit quoi ?» Elle ne savait pas que je voulais écrire un conte. Elle m'a répondu qu'elle voudrait être un éléphant et qu'elle voulait être protégée par une abeille. Alors, sur le coup, je me suis dit « Je vais avoir du mal à écrire un conte dessus. » Et puis j'ai trouvé.
Très réussi. Je te remercie Marina, c'est chouette.
Merci beaucoup.
Quand tu sens la suite.
L'enfant qui voulait capturer le vent. Maman, d'où vient le vent? Ce fut la première question que posa Nomen dès qu'il prit conscience de ce qui l'entourait. Ses oreilles se dressaient au son du souffle du vent entre les montagnes. Ses yeux s'émerveillaient à la vue des champs de blé ployant somptueusement sous ses caresses. Il pouvait rester des heures dehors à humer des senteurs qu'il lui apportait, à sentir sa chaleur le réchauffer en été et le brûler par son froid mordant en hiver. Il aimait le vent lorsqu'il devenait tempête, qu'il pouvait par sa seule force détruire tout ce qui lui barrait la route, sans que rien ni personne ne puisse rien contre lui. Il aimait le vent lorsqu'il était doux, qu'il transportait tranquillement les feuilles des arbres et le pollen jusqu'à lui. Il aimait le vent sous toutes ses formes, mais surtout, il aimait celui qui, tous les jours, s'engouffrait entre les montagnes de sa campagne. Il partait du bas de la vallée, ramassait des pailles de foin et de plumes de la ferme, puis zigzaguait entre les maisons pour partager ses trésors et récolter les rumeurs, faisant sonner les carillons, et ressortait par la brèche des deux montagnes qui dominaient le village. Sa mère ne répondit jamais à cette question, ni personne d'ailleurs. Les autres ne se la posaient pas. Ils se contentaient de l'apprécier ou de le maudire selon le temps qu'il apportait. Nomène, l'interpella pour la troisième fois la maîtresse. Répète ce que je viens de dire. Sorti de sa pensée, le jeune garçon sursauta et décrocha son regard de la fenêtre. Icare s'est brûlé les ailes, tenta-t-il. Ça, c'était il y a une heure, se désola-t-elle. Tu es désespérant. On en était au fil d'Ariane. Mais je vois que toi, tu as perdu le fil depuis longtemps. Tu es complètement perdu, mon pauvre enfant. Je m'envolerai, répondit simplement Nomène. Le vent m'emmènera hors du labyrinthe et fera venir les nuages pour ne pas que le soleil brûle mes ailes. Tu me fatigues, soupira la maîtresse. Va au coin et reviens quand tu auras décidé d'écouter. Je parlerai à ta maman ce soir. L'enfant se leva sans un mot et se dirigea au coin de la salle. Ça ne le dérangeait pas. Il avait remarqué qu'un courant d'air s'y infiltrait. Fermant les yeux, il fit danser ses doigts au bord de la brèche du mur. Un petit choc le sortit de sa transe. Il regarda par terre et y vit un petit avion en papier. Discrètement, il se baissa et le ramassa, en esquivant un regard vers le fond de la classe. Il y vit Zoé, qui lui fit un petit clin d'œil. Enfin, elle essayait. Elle tenait une paupière fermée avec son doigt et ouvrait l'autre. Il cacha le papier dans sa poche et attendit d'être chez lui pour l'ouvrir. Dans ce petit avion, il y avait une petite histoire. Celle d'un dieu qui avait mis des vents dans un sac en cuir pour Ulysse. Il se dit que si les vents avaient des noms et des dieux, peut-être pouvait-il vraiment parler et jouer avec lui. Il se mit donc à aller, tous les jours après l'école, entre les deux montagnes, accueillir le vent qui lui apportait les odeurs et les bruits de son village, qui dans son passage lui ébouriffait gentiment les cheveux. Nomène lui racontait tous ses secrets et ses pensées, jouait au cerf-volant, admirait sa force. Au bout de quelques années, cela ne lui suffit plus. Il voulait l'avoir pour lui, pouvoir le toucher, avoir une réponse avec des mots, le saisir et le voir. Les nuages étaient trop hauts. Les rafales passaient entre ses doigts et s'échappaient à travers tous les trous. Il ne comprenait pas le sens des paroles qu'il lui rapportait et se mit en quête de la capturer. Il relit l'histoire d'Ulysse, souffla dans un ballon et le referma. La solution était peut-être simple. Zoé ! Zoé ! Il courait dans les rues du village et toqua à sa porte tout excité. Zoé, ton ami veut te voir ! L'appela sa mère qui avait ouvert. La fillette sortit en courant, voulant savoir pourquoi. « Je sais comment capturer le vent » s'enthousiasma-t-il. « On est grand maintenant » répondit-elle en riant. « On a 13 ans, on a passé l'âge d'y croire. »« Bon, allez vous amuser !» les encouragea la mère. « Cela vous fera prendre l'air. » »« Il prend assez souvent l'air comme ça, se moqua Zoé. » Puis ils partirent tous les deux au creux des montagnes, là où s'engouffrait le vent. Au sol reposaient d'immenses toiles en plastique, et un gros sac en cuir. Mais tu es sérieux là ? Ria-t-elle en voyant tout ça. Mais on n'a rien à perdre, insista Nomène. Je n'y arriverai pas tout seul, allez, s'il te plaît. Zoé céda. Et ensemble, ils tendirent la toile, qui finit par boucher la grande brèche par laquelle s'infiltrait quotidiennement le vent. Il est resté qu'un tout petit trou, par lequel Nomène accrocha le sac en cuir. Puis ils attendirent que le vent se lève. Ils attendirent 2 heures. Puis Zoé épuisa rentra chez elle. Nomène, lui, attendit et l'appela par le nom qu'il lui donnait discrètement. Zéphyr ! Il cria son nom par-dessus les montagnes et l'écho lui répondit par 3 fois. Une brise se fit sentir, puis une bourrasque. Les toiles tendues se secouèrent avec une telle violence, manquant de peu de se décrocher. Nomène se leva d'un bond et se précipita vers le sac en cuir qui était au centre de celui-ci pour le tenir de toutes ses forces. D'un coup, tout s'envola. Les toiles s'arrachèrent des rochers et des arbres auxquels elles étaient ficelées. Nomène décolla du sol, sans lâcher son sac, et fut projeté violemment au sol. Puis d'un coup, plus rien. Plus de vent. Un calme et un silence comme il n'en avait jamais entendu. Hébété, titubant, il se releva et supposa son sac. Il bougeait, comme si une toute petite créature y était rentrée. Rapidement, il le referma avant qu'elle ne puisse sortir et rentra chez lui avec son nouveau trésor. Une fois dans sa chambre, il posa doucement le sac sur son bureau et attendit un moment avant de l'ouvrir. Une petite chose le secouait de l'intérieur, une toute petite voix, légère comme une brise en sortie. « Ouvre ce sac, Nomen ! Je m'essouffle ! Je ne suis pas faite pour être enfermée ! Laisse-moi sortir !» Hésitant mais curieux, Nomen ouvrit tout doucement le sac, mais sentant un vent violent commençant à s'échapper, le referma aussitôt. Il ne voulait pas le perdre après tout le temps qu'il avait attendu pour l'avoir. Il caressa le sac du bout des doigts et lui parla. Comme il lui parlait toujours. Il lui promit de le libérer très vite. Mais il voulait juste savoir, juste lui parler, le connaître avant un peu plus. Savoir d'où il venait, pouvoir le saisir, enfin. Le vent accepta de répondre à ses questions, toujours enfermé dans son sac. Mais plus le temps passait, plus le garçon avait de questions. Il ne sortait plus. Dès la sortie de l'école, il retournait en courant dans sa chambre parler à Zéphyr, dont le souffle de ses paroles se faisait de plus en plus faible. Les gens du village s'inquiétèrent et le paysage se mourait. Il n'y avait plus de vent depuis des jours. Les nuages et la pluie ne pouvaient plus venir jusqu'à eux et la sécheresse arriva bientôt. Les carillons ne sonnaient plus. Et les brindilles de paille, mêlées de plumes, ne volaient plus au milieu des maisons. Commençant à se douter de quelque chose, Zoé se rendit chez son amie et alla le voir dans sa chambre. Elle le découvrit, tristement assis sur sa chaise, tapotant un sac en cuir légèrement gonflé. « Il ne me parle plus !» déclara-t-il tristement. « Laisse-le partir alors !» Il ravala sa salive. Et tremblant, ouvrit le sac pour y découvrir un tout petit oiseau, aux plumes colorées, complètement inconscient. « Oh mon Dieu ! J'ai tué le vent !» s'alarma-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Il respire encore !» remarqua Zoé en se penchant sur lui. « Donne-lui à manger !»« Mais ça mange quoi, du vent ?» Réfléchissant à toute vitesse, il posa son regard sur un éventail et lui fit de l'air. Il passa l'objet à son ami et alla chercher un peu de foin dans son grenier et des carillons accrochés à l'entrée de sa maison, et retourna dans sa chambre. Tout en l'éventant, il le recouvra de foin et fit sonner les petites cloches, puis il murmura. « Rappelle-toi l'odeur du foin que tu transportes. Souviens-toi la légèreté des plumes que tu apportes, le son des carillons qui en toi résonnent, les murmures, les mots que tu fanfaronnes. Sans toi, tout part, tout disparaît. Reviens-nous et pardonne mon péché. Libre tu es, libre tu resteras. Le gardien j'en deviendrai, ma promesse sera. » Petit à petit, l'oiseau rouvrit les yeux et se remit sur ses pattes. D'un œil perçant, observa les deux enfants et s'envola par la fenêtre dans un coup de vent. Les jours qui suivirent furent très ventés et la pluie arriva en rafale pendant plusieurs jours. Les carillons sonnèrent si fort que les villageois, d'abord rassurés de voir le vent revenir, rentrèrent tout et fermèrent les volets. La tempête dura 2 semaines sans interruption, pendant lesquelles les deux enfants échangèrent des regards inquiets. Nomen se rendit à nouveau entre les montagnes où lui parlait dans le passé et écouta le vent. Il y resta toute la journée et toute la nuit, sans bouger, ni parler, sans broncher, ni trembler, sous l'assaut du vent et de la pluie, acceptant sa colère et son défoulement. Au petit matin, l'enfant fut réveillé par un rayon de soleil et éternua si fort que ça résonna jusqu'au village. C'est Zoé qui le retrouva et le ramena chez lui. Il fut malade et cloué au lit pendant plusieurs jours. Étrangement, aussi longtemps que Zéphyr avait lui-même été enfermé. Tout le monde reprit ses habitudes. Les gens ressortirent. Les carillons et le vent transportèrent un... Le vent transporta à nouveau les plumes et le foin dans les maisons. Nomen continua à écouter le vent, sauf que maintenant, il préférait de loin les murmures de Zoé. Et comme tous les contes qui se terminent bien, on espère qu'ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. « Pourquoi les pandas ont-ils des taches ? Ce conte-là se passe en Chine. En Chine vivaient deux sortes de pandas, symbolisant un peu le yin et le yang pour la population. Une partie était entièrement noire, d'humeur guerrière et aux valeurs protectrices pour le royaume. Ils incarnaient le courage, la force et la volonté. Les Chinois leur apportaient des offrandes lorsqu'ils se sentaient menacés. Les autres étaient blancs comme la neige, très pacifiques et emplis de sagesse. Ils incarnaient le savoir, la culture et la paix. Les Chinois leur demandaient le conseil lors des conflits ou d'incertitudes, ou encore, en cas de besoin de savoir particulier pour soigner les maladies. Ces deux espèces vivaient si éloignées les unes des autres qu'elles ne se croisaient jamais. Et les hommes devaient choisir leur lieu de vie en fonction de ce qu'ils recherchaient. Ainsi, le pays était coupé en deux, ne prenant jamais de nouvelles les uns des autres. Une petite panda blanche, nommée Ziwi, s'ennuyait dans sa tribu, se demandant comment pouvait-on se déclarer sage sans jamais sortir du clan pour découvrir le monde. Certes, ils savaient tous lire, se transmettaient des connaissances, avaient une philosophie de la vie pacifique et portaient conseil à ceux qui les priaient. Mais la petite se rendait compte qu'ils commençaient tous à perdre ce qu'ils avaient été. Le peuple ne venait presque plus les quérir, et jamais aucun panda ne cherchait à se remettre en question. Elle savait que pour atteindre la véritable sagesse et retransmettre les valeurs d'antan aux siens, elle devait voyager et voir comment se tournait le monde au-delà de ses frontières. Elle annonça donc son départ et, sous le regard inquiet de ses parents, prit la route. Tout en quittant sa tribu, Ziwi rencontra de nombreux humains qui se prosternèrent devant elle. Gênée mais touchée, elle se prosterna à son tour devant une femme qui lui apportait des bambous. Non habituée à cette reconnaissance, les villageois acceptèrent avec joie de l'héberger quelques jours afin de lui montrer leur quotidien. Elle se rendit ainsi compte de la difficulté dans laquelle ils vivaient. Elle porta son aide pour soigner les malades, leur apprit à lire, puis les aida dans tous les travaux de la terre, afin de comprendre d'où venaient tous ces dons que les humains leur faisaient. Elle se rendit compte du temps et de l'énergie que les hommes devaient fournir pour récolter du riz, faire des tissages, et donc la valeur de tous ces trésors. Avant de partir vers d'autres découvertes, elle le remercia chaleureusement, car elle venait d'apprendre le respect et la valeur des hommes. À chaque arrêt, à chaque rencontre, elle apprit de nouvelles choses, et bientôt, de partout en Chine, on chantait ses louanges, car à chaque passage, elle guérissait les malades et apportait la paix dans les villages. Un jour, alors qu'elle marchait dans une forêt de bambous, elle rencontra un drôle de panda. Il était semblable à elle sous toutes ses formes, mais son pelage était noir, noir comme l'ébène. Il était seul et gravement blessé. Ziwi n'hésita pas un instant à le soigner, et en quelques jours seulement, il fut remis sur pied. Son nom était Baou. C'était un panda bourru, mais plein d'humour, qui ne savait pas lire, et ne s'intéressait en rien à la culture et à la recherche de paix intérieure. Elle décida de le suivre quelques jours afin d'en savoir plus sur lui. Ziwi ne put s'empêcher de remarquer les lacunes de compréhension qu'il avait. Elle avait beau essayer de lui parler du monde, des plantes et de comment penser les autres, il ne semblait pas comprendre la moitié de ce qu'elle tenait de lui expliquer. Tant bien que très vite, elle le trouva à tort un peu stupide. À côté de ça, elle fut surprise de l'attention qu'il portait à sa sécurité et à celle de tous les petits villages aux alentours. Les habitants lui laissaient toujours de quoi manger au bord de leur maison afin qu'il puisse se rassasier. À eux deux, ils apportèrent beaucoup à un petit village. Comme à tous ses arrêts, elle s'occupait du bien-être des hommes, les aidait à avoir des cultures, des denrées de plus en plus riches, et Baou, grâce à sa force et à sa volonté, les aida dans les travaux les plus durs et les protégeait des bandits et des malveillants. Ils vécurent ainsi plusieurs années, sans jamais se lasser. Qui aurait pu croire que ces deux êtres si différents pourraient aussi bien se compléter. Ce village, si petit à l'origine, devint si prospère qu'il fut plus riche et plus cultivé que la plus grande ville de la région. Si bien que l'empereur vint en personne leur rendre visite. Il captura les pandas et décida d'en mettre un dans chacune de ses deux cités favorites afin qu'ils puissent faire le même miracle. Ziwi fut tellement choquée par cette brusque séparation qu'elle se mit à dépérir. Elle apporta ce qu'elle pouvait aux habitants, les chaînes autour du cou. Elle soignait et conseillait, mais rien de plus. Elle ne se fit qu'un ami, un petit chat de gouttière qui aimait par-dessus tout écouter ses histoires. Le seul lien qui la recrochait encore à la vie, n'ayant plus d'espoir de retrouver sa vie d'avant, sa famille, son ami. Quant à Baou, il brisa ses chaînes et se révolta avec violence, indomptable, et refusa de se soumettre à l'empereur, jusqu'à ce que ce dernier le menaça d'exécuter Zui. Il fit donc tout ce qu'il savait faire. Il fit le tour de la cité afin de protéger des malfaiteurs. Aucun des deux cités n'évolua. Même au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, les progrès se firent minimes par rapport au village d'où il venait. Et l'empereur ne comprit pas pourquoi. Un jour, le chat de gouttière, ayant compris toute l'histoire, décida d'intervenir et de bouche à oreille, miaula cette aventure à travers tout le pays. Étant connu à travers toute la Chine pour sa bonté, les villageois se précipitèrent chez les pandas blancs, leur expliquer la situation. De même que pour Baou, les pandas noirs furent alertés. Lorsque la famille au complet de Ziwi arriva aux portes du palais de l'empereur, celui-ci refusa de leur ouvrir. Mais lorsque 200 pandas noirs vinrent la mettre en pièces dans une rage folle, il fut bien obligé de les écouter. Alliant la sagesse et la diplomatie des pandas blancs, avec la force et le courage des pandas noirs, très vite, les deux amis furent libérés. Ainsi, les deux pandas furent libérés et se virent. Épuisée, Ziwi était devenue frêle et affaiblie. Elle se mourait. Baou fut plein de colère et de rancune en la voyant dans cet état par la faute des hommes qu'il avait toujours voulu protéger. Mais très vite, entouré de leurs familles respectives, le chagrin remplaça la haine et il se laissa tomber auprès d'elle. Et là, il ne revint pas de ce qu'il vit. Deux tout petits êtres cachés dans sa fourrure. Deux petits pandas blancs tachés de noir. Doucement, il les prit et les berça. On dit que ces deux enfants bicolores prirent la qualité des deux parents, à la fois plein de sagesse et de courage, le yin et le yang enfin réunis. Et que depuis, les deux grandes familles apprirent à se connaître et à vivre ensemble. C'est pourquoi les pandas sont ainsi, blancs et noirs, braves et sages, protecteurs et conseillers, plus que jamais, admirés par les hommes.
Tu peux nous en parler de celui-là, il est un petit peu plus universel.
Oui. Mais celui-là, c'est aussi pour un ami que je l'ai écrit. Mm-hmm. Voilà. Un ami qui m'a toujours fait penser à un panda, en fait. Oui, il a un peu la qualité de ces deux, un côté un peu bourru, un peu d'humour, et à côté plein de sagesse, et vraiment un ami qui a toujours été là pour moi, et voilà, je l'ai fait pour lui.
Voilà. Ouais, on est tous le produit du mélange de nos parents. Hein.
Tout à fait.
Et ouais, bien vu. Hein. Ah, le coup du panda, yin-yang, bang. Merci à Marina pour ces trois premiers contes. J'annonce à nos chers auditeurs d'Erliwa que cette émission est désormais disponible en podcast sur le site www.rdwa.fr et aussi que les contes de Marina Chenet, ça n'est pas fini. On se retrouve très bientôt dans un prochain numéro d'Histoire et de Contes. À bientôt.